Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne et bonsoir à tous.
Voilà, au sommaire de cette émission, bah, on va pas beaucoup parler aujourd'hui, c'est très bien comme ça, puisque nous allons avoir au cours de la première et deuxième partie d'émission beaucoup d'intervenants. Nous avons d'abord le plaisir de recevoir dans quelques secondes Nadège Agoulot pour parler de ses éditions, enfin ses éditions, tout au moins les éditions.
Celle qui porte son nom.
Voilà, celle qui porte son nom, Agoulot Éditions. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir de retrouver deux de nos chroniqueurs que vous connaissez bien. Maintenant, Jean-Marc Laherrer d'abord, on va pas dire le roman dont on va parler, il le fera lui-même, et puis le petit dernier, le petit nouveau, Yann Lespousse, qui lui aussi parlera d'un de ses derniers coups de cœur, ces deux chroniqueurs qu'on retrouve régulièrement sur les ondes d'Ondes Noires. On les retrouve aussi sur leur blog, hein, on va citer, on n'a pas souvent le temps de le faire, pour Jean-Marc, Actu du Noir, et Jacques, pour Yann Lespousse.
Encore du noir.
Encore du noir. Voilà. Donc, comme je le disais, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nadège Agoulot. Bonsoir, Nadège.
Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Jacques. Merci beaucoup de l'invitation.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, nous allons parler d'éditions qui portent votre nom, puisque nous allons parler d'un très joli bébé qui a à peu près 6-7 mois, je crois, qui s'appelle...
Oui.
Voilà, Agoulot Édition. Et donc, pour juste vous situer un petit peu, vous avez travaillé de longues années dans le monde de l'édition. Vous avez été aussi à l'origine des éditions Mirobol. Et là, on repart de nouveau. On va refaire toute une équipe et repartir dans la publication de romans. Qu'est-ce qui motive ? Qu'est-ce qui vous fait encore avancer sur ce métier ?
Alors, pardon. Oui, excusez-moi, j'ai un écho dans mon téléphone. Oui, en fait, cette deuxième maison que nous avons créée cette fois-ci à quatre, chacun apportant une pierre à l'édifice bien particulière. Il y a Sébastien Vespizer, qui est un ancien libraire, qui a eu plusieurs vies, qui a été notamment attaché parlementaire, manager de groupe de rock et libraire de nombreuses années à Paris, qui lui est un spécialiste en fait du roman noir et du polar. Estelle Fleury, qui elle est une éditrice de littérature étrangère qui a beaucoup voyagé, et donc notre quatrième associé et donc Sean Abig, qui est lui un graphiste, ce qu'on appelle un brand architect, qui s'occupe d'un bureau de design à Paris et qui travaille notamment pour les marques de luxe. Par exemple, il redesign des magasins de montres très chères telles que Tag Heuer ou des complexes de luxe d'hôtellerie en Chine, etc. Et donc moi-même qui...
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est bien de parler des autres, mais il faut un petit peu parler de soi, Nadège.
C'est normal de présenter d'abord
bien
ceux qui
sûr,
font que c'est
sûr.
Possible aussi. Parce que sans eux, Agoulot ne serait pas, malgré tout. Hein, chacun, comme je disais, chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Les quatre mousquetaires.
Tout à fait. Et donc moi-même, qui donc avait déjà entrepris, si vous voulez, un travail de découverte et de littérature d'horizons différents. Mon job wasn't done here, sur cette terre. Mon travail n'était pas fini. Et c'est pour ça que, 2016, Agoulot Édition s'est créée. Et c'est vrai que nous continuons à publier de la littérature étrangère, mais pas que dans le futur. On voudrait s'ouvrir aux Français. Et c'est vrai qu'on a une tendance à aller chercher des titres qui parlent de notre époque, qui parlent de notre monde. De notre monde ici ou ailleurs, ou même une autre dimension, que ce soit
de manière très métaphorique.
Voilà. Qu'on parle, moi, si vous voulez, de toute manière, l'autre m'intéresse. Et ça, c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés autour de ce concept, de savoir comment l'autre vit, qu'est-ce que l'autre pense. Voilà, et donc ça peut être votre voisin de palier, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vit à 10 000 km, comme je vous disais, quelqu'un qui vit dans un autre univers, carrément une autre dimension. Et c'est cette curiosité, en fait, cette curiosité de l'autre qui nous a déjà unis.
Qui nous a déjà unis.
Comment ?
Qui vous a réuni. Alors justement, voilà. je vais rien inventer. Je vais tout simplement, pour affirmer ces propos, citer la très très jolie phrase que vous avez mise sur votre site. Abolir les frontières. Agulo Édition est le porte-voix d'auteurs d'ici et d'ailleurs qui expriment et partagent leurs histoires, leur culture, leurs joies, leurs espoirs et par-dessus tout leur humanité. Parce qu'il est vrai que la littérature, c'est avant tout une aventure d'être humain finalement.
Et de partage. Et c'est vrai que notre catalogue, notre premier catalogue reflète ça, puisqu'on part, c'est vrai, pas forcément très loin. On part en Roumanie, on part en Russie, on part en Italie, et voilà. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte après coup que finalement nos titres sont souvent porteurs aussi d'un message politique.
Tout à fait. Alors ça c'est, il y a deux choses que je retrouve. Je vais pas dire que je les ai lues tous. Enfin, je crois qu'à nous deux, à Jacques et moi, on les a lues tous. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai lus, il y a entre autres une constante, c'est on retrouve toujours une façon un petit peu différente de voir l'autre et l'humanité, finalement, soit dans la narration, mais soit dans l'ironie, mais on a toujours un petit bout de la lorgnette, finalement. Je pense que c'est quelque chose qui vous attire quand même quand vous choisissez vos manuscrits.
Tout à fait. C'est vrai que l'angle de vue, voilà, le prisme par lequel est peut-être traité un sujet qui a déjà même peut-être été traité, est très important pour nous. Donc c'est vrai que finalement on retrouve souvent les mêmes thèmes, et souvent, enfin les mêmes thèmes politiques entre guillemets, une vision de la société, de l'histoire d'un pays, des problèmes qu'il peut y avoir dans un pays en particulier, mais vraiment traité alors par différents prismes pour le coup. Ça peut être le polar, ça peut être l'absurde, ça peut être le fantastique. Voilà, mais c'est vrai qu'à la lecture, on se rend compte qu'il y a souvent un fil de noir, en fait. Hein,
oui, ça coule un peu dans vos veines, quand même. Hein.
Et c'est vrai que c'est marrant parce que on cherche pas forcément ça. C'est après coup, par exemple, après coup, quand quelqu'un m'a fait remarquer que notre premier catalogue était noir, tous les titres étaient noirs, je m'étais pas forcément rendu compte que tout était noir. Mais c'est vrai que tous nos titres sont noirs dans ce premier catalogue. Et d'ailleurs, dans ce second, je pense aussi, dans notre second 2017, ce sera pareil. Mais toujours avec des prismes un peu différents.
Pour l'avoir parcouru, c'est vrai que, et pour être quand même fan et un petit peu connaisseur de noir, c'est vrai que on rentre vraiment dans les codes, en tout cas du roman noir, qui sont justement transgressifs et assez larges, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de place. Alors justement, il y a deux choses qu'on n'a pas dites au départ, c'est que dans ces éditions, on ne parle pas de collection, on parle bien d'édition, il y a deux collections. Il y a une collection qui s'appelle Agulo Fiction, et une autre qui s'appelle Agulo Noir, et donc qui est plus spécifiquement fait pour des romans policiers, un peu plus classique. Par exemple, le premier de l'italien, le Fleuve des Brumes, avait une structure un petit peu plus classique parce qu'on avait un commissaire, mais on découvrait une plaine du Pô qui est quand même, nous on habite Nice, on est quand même à quelques centaines de kilomètres, on est très près, et on a découvert des tas de choses à la lecture de ce roman. Mais il y a aussi dans Agulo Fiction des romans qui sont très noirs, et vous avez peut-être expliqué tout en disant qu'il y a quand même un prisme politique étant pris au sens très large, c'est-à-dire au sens étymologique, fait de société finalement.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en plus, on a quand même beaucoup de titres, à part évidemment quand vous disiez les classiques tels que Valerio Varesi, Le Fleuve des Brumes, mais qui sont des mélanges de genres. Donc ça veut dire qu'il y a du noir, il y a de l'absurde, il y a de l'ironie, il y a du fantastique. Ces titres-là, ils sont très riches, mais ils sont difficiles à positionner finalement en librairie, parce que nous, on essaie toujours de réfléchir par rapport au rayon de librairie.
Une des caractéristiques des éditeurs. C'est ça le problème. C'est le plus dur, je crois.
Oui, mais aussi des libraires. C'est, si vous voulez, c'est les enfin, nous, on, si vous voulez, dans les librairies, et plus elles sont grandes, plus il y a de rayons. Il faut qu'on trouve le bon libraire qui va vendre le livre. Après, évidemment, nous, on avait pris le parti de sortir nos livres des rayons. Par exemple, on publie du fantastique, mais du fantastique qu'on pense être à plus grande audience que vraiment les livres de science-fiction très purs et durs, etc. Donc, on a pris le parti de les sortir de ce, du rayon, de les vendre en littérature générale. Après, en même temps, si par exemple un libraire de SF préfère vendre ce livre, nous on le laisse faire. Après, ce qu'on veut surtout, c'est que les libraires s'emparent de nos livres et toucher le maximum, le plus grand nombre de lecteurs, évidemment.
Alors justement, on parlait des rayons des librairies. Vous avez, et c'est une exception, je pense, vous avez donc dans les créateurs, dans les quatre mousquetaires, il y a donc un graphiste, dis graphiste pour son métier est plus important que ça, mais graphiste. La charte graphique est très importante et très originale. Par exemple, sur la première de couverture, vous avez choisi de pas franchement mettre le nom de l'auteur ni le titre du roman pour laisser pleine page de très belles couleurs. Ça fait, on a une espèce d'arc-en-ciel. Est-ce que moi cette idée m'est venue. Est-ce que l'idée de cet arc-en-ciel dans la charte graphique, ça représente justement toutes les couleurs de la littérature, un petit peu?
Ben écoutez, oui, c'est une bonne analyse de la collection, enfin voilà, de la charte graphique. Et puis aussi, on essaie quand on peut de se rapprocher des couleurs d'un pays, si un pays peut en avoir. Par exemple, la Russie qui pourrait être rouge. Et puis après, voilà, aussi on essaie de se raccrocher à la couleur que pourraient avoir les émotions ou les sentiments.
Alors, petite très très bonne idée aussi, ça je le cite parce que c'est vraiment, j'ai trouvé cette idée excellente. Nous on fait beaucoup de place aux traducteurs et dans vos éditions qui pour l'instant n'accueillent que, mais je dis bien que pour l'instant, que des auteurs étrangers et de plein de nationalités différentes. La traduction a sa grande importance et vous avez eu l'excellente idée de mettre au retour du bandeau une des phrases originales en VO. Alors comme il y a quand même du russe, beaucoup de langues assez étranges. C'est vraiment une très bonne idée, cette phrase en VO. J'espère que vous allez continuer.
Ça, pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur après justement avoir publié quelques années de la littérature étrangère et de justement de recevoir ces manuscrits en langue originale, etc. Et de découvrir, par exemple, là à Francfort, j'ai découvert la langue géorgienne qui ressemble en fait à une langue asiatique. Enfin, c'est vraiment beau quand on le voit. Et je me suis dit, c'est dommage qu'on aille chercher des pays, qu'on aille chercher de la littérature de pays qu'on connaît peu en France, ou enfin pas trop, et de ne pas montrer aux lecteurs français à quoi ressemble la langue originale, quoi.
Mais c'est vrai qu'après, il faut trouver les bons passeurs qui sont les traducteurs. Mais apparemment, vous avez quelques adresses pour parler quand même un petit peu de votre actualité. Moi, j'aimerais revenir sur deux titres qui sont sortis à l'automne. D'abord, une fable que j'ai trouvée vraiment... Alors ça, c'est un coup de cœur fantastique. C'est un livre qui s'appelle « L'installation de la peur ». C'est d'un auteur portugais dont je vous laisse dire le nom parce que moi, je dis Ruizinck, mais je pense que c'est pas du tout comme ça qu'on prononce.
C'est presque, c'est Ruizinck.
C'était ça, c'était presque. Vous êtes gentille. Merci, Nadège. Donc, dans ce livre, je dis juste un tout petit peu le début, deux hommes habillés comme un peu des fonctionnaires arrivent chez une femme pour tout simplement installer, comme chez tous les habitants de ce pays, la peur. Et au départ, on a l'impression que c'est une fable, alors que c'est un livre éminemment politique qui fait peur au lecteur aussi.
Encore voilà un livre politique. C'est particulièrement un exemple de mélange de genre, ce titre-là. Ah oui. Parce que il y a du noir, il y a de l'absurde, il y a un peu du fantastique, de la SF avec toutes ces machines bizarres.
Parce qu'on a l'impression qu'on peut installer la peur avec une espèce de télécommande. Donc ça, on sait quand même que c'est pas vrai, normalement.
Voilà, et puis il y a ce côté aussi dystopique en fait dans ce titre là c'est ce qu'on appelle un ONI, un objet littéraire non identifié, et aussi c'est mis en scène en fait, ça a été, il a été écrit comme pour être mis en scène, quoi, en fait. C'est presque une pièce de théâtre aussi.
Il y a effectivement, parce qu'on a une unité de lieu, tout se passe dans deux pièces, en fait. Une pièce, donc la pièce principale, et puis une qui a une importance, mais pour la tension narrative absolument incroyable, et ça, c'est un jeu de littéraire fantastique, c'est la salle de bain, je dis pas pourquoi.
Ouais.
Il y a quelque chose de caché, on va pas dire, et ça c'est vraiment pour c'est une super idée littéraire. Et puis il y a l'unité de temps, parce que finalement ça se passe en quelques heures, et en quelques heures l'auteur nous insène des vérités sur les discours qu'on entend actuellement dans les médias qui sont assez impressionnantes.
Ah ben c'est voilà, c'est un livre qui se révèle d'une actualité brûlante et moi je dirais un peu visionnaire, parce que ce livre a été écrit mais par exemple avant les événements avant les attentats terroristes de Paris, tout ça, et donc là on se rend compte que ça fait vraiment peur de voir que ce qui se passe dans ce livre, c'est ce qu'on vit à notre époque.
Les discours sur les marchés financiers, c'est ce en qu'on plus, entend de certains hommes politiques. C'est impressionnant.
Tout à fait, le pouvoir des médias, que les médias vraiment sont les premiers justement à installer cette peur parmi la population, et aussi Rusing, c'est un vrai linguiste qui joue aussi avec la langue. On peut croire que le texte est très simple, mais en fait il travaille énormément son texte.
Ça se sent au plaisir de lecture. Le temps passe, donc je voudrais qu'on évoque aussi un autre roman qui est aussi très politique, qui est mais jouissif, c'est le dernier roman de Lorchenkov, que vous aviez déjà publié, et puis une histoire mais rocambolesque en Moldavie. Avec des personnes, le dernier amour de Petrescu, je dis le titre, excusez-moi, et des personnes qui, pour des raisons différentes, ont envie que, en Moldavie, se soit installé, tout simplement, Oussama Ben Laden.
C'est ça. Il y a un quiproquo à propos de Oussama Ben Laden qui se serait installé, qui aurait décidé de revenir, de redevenir Monsieur Tout le Monde, et qui aurait choisi au hasard d'une map monde qu'il aurait fait tourner en fermant les yeux, en mettant son poing, son doigt sur un pays, au hasard sur la map monde, ça serait Chisinau, qui est la capitale de la Moldavie. Donc il va ouvrir un genre de magasin de shawarma, et après, est-ce la bonne personne, ou y a-t-il erreur sur la personne? En tout cas, ça crée, c'est vrai, des embroglios politiques et au sein des services secrets qui sont rocambolesques, comme vous disiez. Vladimir Lorchenkov, il est très bon pour ça. Lui aussi, son écriture est très drôle, absurde, mais aussi très cruelle et très noire, justement, pour toujours dénoncer son pauvre pays qui est la Moldavie, qui prend cher au bout de trois romans. Mais il le fait toujours aussi bien. Et ce livre avait été écrit juste avant qu'on sache la vérité sur Ben Laden. Il l'avait sorti en 2003.
Oui, c'est un roman qui a quelques années. On pense que c'est un mémoire, mais ça n'a aucune importance. Laisse prendre par une galerie de personnages absolument incroyables, haut en couleur, à qui il arrive des choses qui sont totalement rocambolesques et qui sont totalement inimaginables. Mais Lorchenkov, il nous y fait croire complètement. On rentre complètement dans ce récit. Alors, il nous reste une minute. Janvier, février, en général, vous êtes plutôt Middle Europa, on est plutôt dans une frange. Et là, il y a Brown aussi, excusez-moi, mais là, vous annoncez John Menno avec le blues de l'harpie, quel beau titre.
Oui, alors là, c'est vrai qu'on va pas forcément chercher, disons que la langue anglaise, c'est pas notre priorité, mais cet auteur, quand on l'a lu, on s'est dit, mais pourquoi il n'est pas publié en France? Il a une voix, il a une plume extraordinaire. C'est, du coup, on a acheté trois titres, on publiera trois titres de lui. Donc c'est très noir, mais il y a toujours des sentiments et des émotions, et la relation humaine apporte toujours de la luminosité à travers des environnements très noirs.
Eh bien, écoutez, je crois que cette phrase, Nadège, va être la conclusion. Les relations humaines qui apportent la luminosité, parce que le temps est écoulé. Donc, on vous remercie beaucoup. Et puis, on invite tous nos auditeurs à aller découvrir vos livres en librairie. Puis, déjà, aller faire un petit tour sur le site. Ça leur donnera plein de bonnes idées de cadeaux de Noël.
Merci beaucoup,
Nadège. Bonsoir.
Au revoir.
Au revoir.